Cela s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi. Au matin, personne ne soupçonnait rien. J'ai envoyé mon fils à l'école et mon mari est allé chez le coiffeur. Je préparais le déjeuner lorsque mon mari est revenu. Il y a un incendie à la centrale. On a donné l'ordre de ne pas éteindre la radio. J'ai omis de dire que nous habitions Pripyat, tout près du réacteur. Je revois tout cela de mes yeux, une lueur framboise, flamboyante. Le réacteur semblait être éclairé de l'intérieur. Ce n'était pas un incendie ordinaire, mais une luminescence. C'était très beau. Je n'ai rien vu de tel, même au cinéma. Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez les voisins. On prenait les enfants dans les bras pour leur dire « Regarde, cela te fera des souvenirs !» Et c'était des employés de la centrale, des ingénieurs, des ouvriers, des professeurs de physique. Ils se tenaient là, dans la poussière noire, ils parlaient, ils respiraient, ils admiraient. Certains faisaient des dizaines de kilomètres en bicyclette ou en voiture pour voir cela. Nous ignorions que la mort pouvait être aussi belle. Mais je ne dirais pas qu'elle n'avait pas d'odeur. Non, ce n'était pas les senteurs du printemps ou de l'automne, mais quelque chose de différent. Ce n'était pas non plus l'odeur de la terre. J'avais la gorge irritée et les yeux pleins de larmes. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'entendais les voisins marcher dans l'appartement du dessus, insomniaques eux aussi. Ils tiraient des meubles et tapaient avec un marteau. Ils faisaient peut-être leur bagage. Moi, j'étouffais une migraine avec des comprimés. Le matin, lorsque le soleil s'est levé, j'ai regardé autour de moi et je ne l'invente pas maintenant. Je l'ai ressenti à ce moment-là. J'ai vu que quelque chose avait définitivement changé. À 8 heures, les soldats avec des masques à gaz déambulaient déjà dans les rues. Lorsque nous les avons vus avec leurs véhicules militaires, nous n'avons pas eu peur. Au contraire, nous nous sommes calmés, puisque l'armée venait nous aider, tout irait bien. Nous rentrions tard le soir, parce que nous travaillons 12 heures par jour, sans congé. Nous ne nous reposions que la nuit. Nous retournions donc au campement, en véhicule blindé, lorsque nous avons vu un homme traverser le village vide. On s'est rapproché. C'était un jeune gars avec un tapis sur les épaules. Une djigouli était garée près de là, le coffre plein de télé et de postes téléphoniques. Nous avons fait faire demi-tour à notre blindé pour éperonner la voiture. Elle s'est pliée en accordéon. Comme une boîte de conserve, personne n'a bronché. Nous enterrions la forêt. Nous scions les arbres par tronçons d'un mètre et demi, les entourions de plastique et les balancions dans une énorme fosse. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Dès que je fermais les yeux, quelque chose de noir bougeait et tournait comme si la matière était vivante. Des couches de terre vivante avec des insectes, des scarabées, des araignées, des vers. Je ne savais rien sur eux, je ne savais même pas le nom de leurs espèces. Ce n'étaient que des insectes, des fourmis, mais ils étaient grands et petits, jaunes et noirs, multicolores. Un poète a dit que les animaux constituaient un peuple à part. Je les tuais par dizaines, centaines, milliers, sans savoir même le nom de leurs espèces. Je détruisais leurs antres, leurs secrets, et je les enterrais. Le 26 avril 1986, à 1h23, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 de ces villages sont enterrés pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur quatre. Aujourd'hui, 1 sur 5 vit dans une région contaminée. Cela concerne 2,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Moguilev, qui ont le plus souffert de la tragédie, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. Tiré des témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, La Supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse.